adopté un nouveau train de sanctions contre le régime.
Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au Mali, les militaires mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition, notamment un réajustement au poste de la défense et de la sécurité, ont arrêté hier le président Bando et le premier ministre Mokhtar Ouane dans un coup de force secouant le pays plongé depuis des années dans une crise profonde. La communauté internationale a condamné fermement la tentative de coup de force et dans un communiqué exigé la libération immédiate et inconditionnelle du président et de son premier ministre, conduit avec certains collaborateurs sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, au lieu de l'appareil militaire malien. C'est là que le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été conduit de force le 18 août 2020 par des colonels putschistes pour annoncer sa démission. Ce sont, semble-t-il, les mêmes colonels qui sont à la manœuvre 9 mois plus tard. Leurs intentions ne sont pas connues. La mission des Nations Unies au Mali, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont affirmé dans un communiqué commun leur ferme soutien aux autorités de la transition, rejetant par avance tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants arrêtés. Le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, est annoncé dès ce mardi à Bamako. Dans un tweet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au calme et à la libération inconditionnelle des dirigeants civils maliens. Notre correspondant à Bamako, Lamissa Sangaré, reviendra sur ces développements au Mali. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma a continué hier d'être secouée par de nombreuses et fortes secousses telluriques, suscitant la peur des habitants à peine revenus dans la cité, 2 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, toujours grondant. Nathalie Barge nous donnera les détails. L'ancien ambassadeur du Tchad aux États-Unis, Mahmoud Adam Béchir, sa femme Noracham Béchir Niam, qui a perçu des frais de consulting fictifs, et son ex-adjoint Youssouf Hamid Takan ont été inculpés par le département américain de la justice. Accusé d'avoir accepté d'une start-up énergie canadienne des pots de vin de 2 millions de dollars. Naïm Thiab, un ex-directeur de la compagnie, a été aussi inculpé. Il risque chacun 20 ans de prison. Les tensions étaient vives hier à Jérusalem et en Cisjordanie occupée. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui cherche à consolider la trêve entre l'État hébreu et le Hamas palestinien après plus de 10 jours d'affrontements sanglants, est arrivé ce mardi à Tel Aviv pour des entretiens à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et à Ramallah en Cisjordanie occupée avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui ne contrôle toutefois pas la bande de Gaza dirigée par les islamistes du Hamas. Monsieur Blinken se rendra ensuite en Égypte et en Jordanie, deux acteurs régionaux clés de la stabilité régionale. La Chine dément que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, ville un temps épicentre de la pandémie, avaient été ces 3 chercheurs aient été atteints d'une maladie qui a nécessité des soins hospitaliers avant que le virus ne se répande dans le monde. Selon le Wall Street Journal, qui dit se fonder sur un rapport du renseignement américain, 3 chercheurs du laboratoire chinois ont été atteints dès novembre 2019 de symptômes compatibles à la fois avec ceux du COVID-19 et une infection saisonnière. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à aller au-delà de la solidarité et entrer en économie de guerre contre la pandémie de coronavirus à l'ouverture hier de l'Assemblée mondiale de la santé, au moment où l'Inde devient le 3e pays à franchir le seuil des 300 000 morts. Le président Joe Biden a condamné hier le déroutement scandaleux d'un avion de ligne européen vers Minsk pour arrêter en opposant au régime.
La suite de nos informations, retour sur le Mali où la situation est toujours confuse au lendemain de la publication de la liste du gouvernement de Mokhtar Ouane. Une brouille est survenue hier entre le chef de l'exécutif et l'ex-CNSP, le conseil militaire qui a été à la base de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Bandaou et son premier ministre ont été arrêtés hier soir. De Bamako, Lamissa Sangaré.
Les Maliens sont toujours dans l'attente des nouvelles de leur président de transition et de son premier ministre. Ils ont été amenés contre leur volonté hier ici à Kati, la plus grande garnison militaire du pays sous une forte escorte militaire. Les premiers ministres auraient été amenés d'abord des forces au domicile du président Bandaou avant que les deux ne soient conduits à Kati. Cette tension soudaine est survenue après la mise à l'écart du nouveau gouvernement des deux acteurs clés de l'ex-junte qui a renversé le régime défunt d'Ibeka, à savoir le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, qui a été remplacé par son chef de cabinet dans l'ancien gouvernement, et le colonel Modibo Kone, lui aussi éjecté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les deux officiers sont issus du même corps de garde. L'ONU, les grandes organisations africaines, la France, les États-Unis et d'autres ont condamné hier soir ce qu'ils qualifient des tentatives de coup de force en cours au Mali. Ils rejettent par avance tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants de transition arrêtés par des militaires. Le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, est annoncé dès aujourd'hui à Bamako, a-t-on appris des sources diplomatiques. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, deux jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, qui a fait au moins 20 morts, de nouvelles secousses à Goma ont suscité la peur des habitants tout juste revenus. Des dizaines de milliers d'habitants avaient fui la ville après l'éruption du volcan samedi. Nathalie Barge.
Les secousses se sont poursuivies sur un rythme soutenu, parfois avec une forte intensité. Des fissures de plusieurs mètres de long sont visibles sur la chaussée. Au moins 5 personnes ont été tuées hier par les émanations de gaz alors qu'elles tentaient de traverser un tronçon de lave encore chaude. Samedi soir, le volcan Nyiragongo est entré en éruption, provoquant la fuite de la population. La coulée de lave est arrivée en lisière de Goma. De nombreuses habitations ont été englouties par cette coulée qui a coupé la route de Butembo, principal axe commercial du Nord Kivu. 17 villages ont été touchés. Une délégation gouvernementale de 7 ministres est sur place pour faire l'état des lieux et appuyer l'aide aux populations sinistrées.
Moussa Baldé, un migrant guinéen de 23 ans, s'est suicidé ce week-end en Italie. Il avait survécu à une attaque violente début mai et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le jeune Guinéen placé à l'isolement pour des raisons médicales a été retrouvé mort dans sa chambre dimanche matin, selon son avocat Gianluca Vitale. Moussa Baldé avait été attaqué par 3 hommes le 9 mai à Ventimiglia, une ville près de la frontière avec la France, alors qu'il mendiait près d'un supermarché. La vidéo de cette agression a été largement diffusée sur les médias et réseaux sociaux. Le lendemain, la police italienne avait identifié les agresseurs, engageant une procédure contre eux sans procéder à leur arrestation. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, Moussa Baldé, sans permis de séjour, a reçu un avis d'expulsion et a été placé dans un centre de détention à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie. Avant sa mort, Maître Vitale et son avocat cherchaient à stopper son expulsion et à présenter une nouvelle demande d'asile. L'Italie est souvent le lieu d'arrivée en Europe de migrants africains qui recherchent un Eldorado après une traversée souvent périlleuse de la Méditerranée.
La Minute Éco, John Linden.
2020 a été une année exceptionnelle pour le groupe BGFI Bank qui opère dans 11 pays africains et en France. L'institution bancaire a réalisé un résultat net de 44 milliards de francs CFA, en hausse de 114% par rapport à 2019. Ce sont les données révélées lors de l'Assemblée générale annuelle du groupe récemment tenue à Libreville au Gabon. En Côte d'Ivoire, les travaux du port sec de Fergué-Sédougou ont été lancés. Le port s'étend sur une superficie de 732 hectares et sera livré en 2024. D'un coût total de près de 254 milliards de francs CFA, ce projet sera financé par l'État de Côte d'Ivoire par un prêt obtenu de banques chinoises et des banques nationales. La reprise économique post-Covid s'est accélérée au cours du premier semestre 2021. Selon les données présentées par StockApps, la capitalisation boursière a bondi de près de 20% depuis décembre et atteint 7,3 milliards d'euros. Elle a bondi de 48% en glissement annuel et les 100 premières banques sont en hausse de 43%.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les affiches des quarts de finale de la Basketball Africa League qui se dispute à Kigali au Rwanda. Pas de match ce mardi. Les rencontres débutent demain mercredi. Le redoutable Égyptien du Zamalek, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule, feront face au Camerounais du FAP, repêché en tant que meilleur troisième. Puis place au choc entre les Marocains de l'AS Salé et les Angolais de Petro de Luanda, invaincus lors du premier tour. Jeudi, mission compliquée pour les Sénégalais de l'AS Douane, eux aussi repêchés comme meilleur troisième devant l'US Monastir de la Tunisie. Juste après, les Mozambicains de Ferroviaire du Maputo feront face aux hôtes rwandais du Patriote. Les deux demi-finales se joueront samedi et la finale le dimanche 30 mai. Football, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été élu entraîneur de l'année par l'Association des entraîneurs de la Ligue anglaise pour la deuxième fois en 4 ans après avoir ramené son club au sommet du football anglais en révélant l'identité du vainqueur du trophée qui porte son nom. L'ancien entraîneur mythique de Manchester United, Alex Ferguson, a salué, je cite, « la réussite remarquable que constitue la reconquête du titre de champion d'Angleterre, mais aussi le fait d'atteindre pour la première fois la finale de la Ligue des champions » qui se jouera samedi à Porto contre Chelsea. La Première Ligue est le championnat le plus fort dans lequel il a entraîné, a estimé Guardiola, qui succède ainsi à Jürgen Klopp, distingué avec Liverpool l'an dernier. Ici aux États-Unis, la NFL, la Ligue professionnelle de football américain, annonce l'ouverture d'une enquête après des allégations de discrimination formulées par Eugene Chung, ancien entraîneur adjoint des Philadelphia Eagles. Lors d'un récent entretien d'embauche, Chung, 51 ans, a déclaré au Boston Globe dans une interview qu'il n'a pas obtenu un poste d'entraîneur pendant l'intersaison après s'être entendu dire par un club dont il n'a pas souhaité préciser l'identité qu'il n'appartient pas à la bonne minorité, l'alliance Fritz Pollard, qui œuvre pour améliorer la diversité dans la NFL. Demande aussi qu'une enquête soit menée. Si les commentaires concernant son statut d'Américain d'origine coréenne sont vrais, c'est une preuve supplémentaire que les pratiques d'embauche de la Ligue sont encore entachées de discrimination, a indiqué cet organisme.
Merci, Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Éruption du volcan Nyiragongo près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le nombre de morts est estimé à au moins 20 et 32 selon d'autres sources qui ont contacté la Croix-Rouge. La population a été prise par surprise. Eddie Isango a joint le directeur scientifique de l'Observatoire vulcanologique de Goma, Célestin Kasereka Mahinda.
Les coulées de lave se sont déjà arrêtées. Le cratère, le sommet du volcan Nyiragongo est couvert de cendres. Et ce que nous ressentons en ce moment, ce sont des tremblements de terre. Des magnitudes qui varient entre 3 et 4,9. C'est violent puisque dans notre région, les constructions sont souvent faites avec des moyens limités. Il y a des fissurations. Comme Goma, c'est une région volcanique avec des roches à peu empilées. Et il y a des fissurations. tombe sur le sol, mais il n'y a pas de signe d'une éventuelle éruption volcanique.
Qu'est-ce que vous avez sur le plan bilan?
En fait, l'éruption de Nyiragongo est sortie par trois avant. Il y a une fracture qui s'est ouverte et la lave s'est dirigée vers le Patalanda, en coupant la route Goma Rakosuru. Et ça a coupé la route dans la réserve d'à peu près 1 km. Je me suis presque fait arrêter à mi-chemin.
Vous pensez que ces séismes ou ces répliques vont aller jusque quand? Pour combien de jours?
Ce n'est pas la première fois qu'on enregistre des tremblements de terre après une éruption. Le 17 janvier 2002, il y avait des tremblements de terre. Je dirais plus qu'une semaine. Le 10 janvier 1977, il y avait des tremblements de terre. Pour moi, ce n'est pas un phénomène nouveau, les tremblements de terre. Il faut en tenir compte puisque ça nous construisait efficacement. Les moyens sont limités et on construit sans respecter les normes parasismiques.
Et justement, quel est le bilan que vous avez aujourd'hui sur le plan humain et matériel?
La lave s'est dirigée vers le Rwanda. Mais, Dieu merci, ça s'est limité sur la route et la chute coulée a coupé la route comme un sous-nom. La largeur de cette coulée est au moins 1 km. Là aussi, à ce village de Kanyanza. Kanyanza, c'est un village. Il y avait une autre base qui se dirigeait vers Goma. Là, il y a Angouti. Nous avons Moutao, Kabaya, Kassigny et une partie de la localité de Bouhéné. On a eu des dégâts humains. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 8 morts.
Cette fois-ci, la population dit avoir été prise par surprise. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'observatoire en leur n'ait pas donné le signal de l'éruption volcanique à temps?
Nous avons eu des perturbations de financement à cause de COVID-19 et ça ralentit nos activités de travail. On reçoit les données par Internet. La capacité de débit est très faible, alors on recevait les données aussi de manière régulière. Nous avons eu l'Internet au mois de mai 2021.
C'était Célestin Kasereka Mahinda, directeur scientifique de l'Observatoire vulcanologique de Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Pour vaincre la pandémie de COVID-19, les autorités sanitaires nationales et internationales considèrent les vaccins comme une arme essentielle. Mais alors que les pays développés vaccinent massivement, le continent africain reste à la traîne, malgré les mécanismes d'entraide et de solidarité mis en place par l'ONU. Pour analyser cette situation, Mohamedou Houmfa a joint le professeur Yap Boum, responsable Afrique du Centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières.
La majeure partie des pays africains sont adossés à l'initiative COVAX, qui permet à bon nombre de pays africains d'avoir un minimum de doses qui correspondrait à 20% de leur population. Mais il y a des pays comme le Tchad, par exemple, qui n'ont pas reçu de doses encore, qui n'ont pas non plus commencé à vacciner. Mais il y a des pays comme le Kenya, par contre, qui ont épuisé les doses qu'ils ont reçues. Ils ont reçu à peu près 1 million de doses d'AstraZeneca et ils ont vacciné près de 900 000 personnes la semaine dernière en première dose. Et ils font face au problème de pouvoir recevoir de nouvelles doses. Et pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Inde, qui produit les vaccins AstraZeneca pour l'Afrique, vu la situation en interne, n'a pas la capacité de pouvoir produire pour l'Afrique.
Les pays reçoivent quand même des vaccins, mais le déploiement de la couverture vaccinale n'est pas si élevé que ça. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation?
Premièrement, ces vaccins ont quand même des doses relativement limitées en termes d'expiration. Sachant qu'une campagne de vaccination massive, ça se prépare. Et beaucoup de ces pays n'ont pas eu le temps, les capacités pour préparer ces campagnes en termes de logistique, en termes de ressources humaines. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'acceptation de la population. En tout cas, en majorité, estime qu'elle a un risque plus important à prendre des vaccins qu'ils connaissent moins bien, plutôt que d'avoir une pathologie dont ils ont compris, pour la plupart des Africains, qui ne sont pas les personnes les plus à risque de mourir, au vu de la faible mortalité et des profils particuliers des personnes âgées. Donc, on comprend au fur et à mesure qu'on évolue que les personnes se disent, surtout ceux qui sont jeunes, qu'elles ne rentrent pas dans les catégories les plus à risque. Et donc, l'appel du vaccin qu'on voit dans les pays développés qui sont à risque, qui ont un nombre important de morts, on le voit beaucoup moins dans les pays africains.
ce problème de vaccination vient montrer une fois de plus qu'il y a en Afrique un problème au niveau de la logistique, de la production des vaccins. Quelles sont les leçons que les gouvernements africains peuvent tirer de ce qui se passe?
La première leçon qu'on doit tirer, c'est que finalement, nous sommes totalement dépendants, une fois de plus, de l'Occident. À partir du moment où il y a eu en Inde cette vague importante, ça a mis en péril les stratégies de vaccination en Afrique. Et là, on parle de la Covid. Je pense que c'est une opportunité de mettre en avant, remettre au centre la question de la production locale de vaccins qui permettrait d'avoir, de ne plus dépendre de l'extérieur, mais d'avoir les capacités et la flexibilité de produire pour nos populations. Je pense que c'est l'une des leçons majeures, mais également la recherche. Si en Afrique du Sud, il n'y avait pas eu cette étude qui a montré que le vaccin AstraZeneca n'était pas efficace à cause des variants, vous imaginez qu'on aurait vacciné toute la population sud-africaine avec un vaccin qui ne marche pas. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait de la recherche qui soit faite en Afrique, financée par les Africains, qui permette de trouver des solutions qui correspondent aux besoins et aux challenges que nous avons.
Le professeur Yap Boum, responsable Afrique du Centre de Recherche Épidémiologique de Médecins Sans Frontières.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dans le cadre de notre série sur le basketball africain, aujourd'hui le Bénin. On connaît les écureuils du Bénin en football, mais pas vraiment en basket, parce que, contrairement au sport roi, le basketball est une discipline qui cherche toujours ses marques dans ce pays. Quelle est la situation de la balle au panier au Bénin? La réponse avec Élisée Ongpatine à Boïcon au Bénin.
10 équipes masculines et 2 clubs féminins pour une saison en 2 temps. Une première phase zonale avant des playoffs pour désigner les champions. Voilà l'essentiel de la toute première saison de Ligue Pro de basketball lancée au Bénin. Abdoul Gani Bakari, président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, nous parle de cet important virage pris par la fédération.
Nous avons démarré ce championnat avec 10 équipes qui réparties en 2 zones. C'était un grand challenge, un grand défi que la fédération et son bureau ont décidé de relever. Je peux vous dire, après la première phase, que nous sommes satisfaits de la prestation, de l'engagement des équipes et du niveau de jeu que les différentes équipes nous ont livré à travers des matchs aussi bien chez les hommes que chez les dames.
Le basketball au Bénin a connu une réelle existence au lendemain des indépendances. L'histoire de cette discipline est jonchée de faits d'armes légendaires, ce qui a amené le changement à l'aide du professionnalisme proposé par le gouvernement. Ismaël Onifari, président de la Fédération béninoise de basketball.
Les moyens pour organiser les différents championnats, c'est-à-dire le championnat professionnel, le championnat amateur et également l'ensemble des autres activités de la fédération béninoise de basketball, ces moyens-là sont à notre disposition. Et c'est en 2 volets. Il y a d'abord la subvention que nous recevons du gouvernement. Le deuxième volet, c'est la TDS, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport.
Le Bénin a été pendant longtemps un pays majeur dans l'organisation des compétitions internationales. D'ailleurs, le dernier tournoi international organisé à Cotonou était la phase zonale des éliminatoires de la Basket Africa League. Aujourd'hui, le pays a des ambassadeurs de choix pour son basketball. Isabelle Yakoubou, ancienne internationale française, ou Mouftaou Yarou, passée par les universités américaines et le haut niveau européen, et la star NBA Yann Miami, champion avec Dallas, organise des camps pour booster la relève. Un projet d'une grande importance qu'il faut saluer, selon le président de la Fédération béninoise de basketball.
Nous sommes en étroite relation avec cette diaspora. Nous travaillons avec eux et nous leur apportons le minimum d'assurance et d'ouverture d'esprit et également de franche collaboration qu'il faut pour qu'ils se rassurent et qu'ils puissent apporter de leurs compétences, leur image et également les moyens qu'il faut également pour pouvoir accompagner le basketball national. Et franchement, ici, c'est l'occasion de les remercier pour tout ce que nous avons obtenu. Il y a des jeunes joueurs qui ont pu avoir accès à des écoles de basketball, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. nous avons déjà réussi ce projet-là, et particulièrement avec Yann et Miami, que je remercie au passage ici. Donc ça va au-delà même du basketball, ça englobe l'ensemble du développement des jeunes et béninois, et évidemment à travers le basketball.
Le travail va se poursuivre en vue de résultats probants dans les années à venir. Pour le moment, c'est autrement que le basketball béninois brille à l'international, avec surtout son arbitrage reconnu et respecté. La dernière preuve est la présence du jeune arbitre béninois Sylvain Jacques Mbeji à la première édition de la Basket Africa League à Kigali au Rwanda. Boycon, Élisée Humpati, VOA Afrique.
C'était il y a un an. La mort de George Floyd à Minneapolis lors de son arrestation par 4 policiers avait déclenché une série de manifestations aux États-Unis et dans plusieurs pays à travers le monde. Les images de son arrestation avaient fait le tour de la planète et provoqué l'émotion. Le principal suspect, l'ex-policier Derek Chauvin, a été reconnu coupable et attend sa sentence, tandis que ses 3 co-accusés doivent être jugés en mars 2022. Comment la ville de Minneapolis se souvient-elle un an après la mort de George Floyd? Abdulrahman Dia a posé la question à l'activiste Ruben Joanem.
Il y a eu des activités commémorative dans les villes jumelles, surtout à Minneapolis, où quelques membres de la famille Floyd se sont exprimés sur les conditions de vie dans les Twin Cities immédiatement autour de la mort de George Floyd. Des manifestations pacifiques et les gens se sont exprimés sur la condition des Noirs en général aux États-Unis à l'occasion de commémoration de la mort de George Floyd.
Alors, est-ce que selon vous, les rapports entre la police et les communautés de couleur, les minorités, est-ce que ces rapports se sont améliorés depuis l'année dernière, selon vous?
Certainement, il y a eu quand même quelques mouvements vers une certaine amélioration des relations entre la police et les communautés minoritaires ici et dans les villes jumelles. Mais de là à dire que les choses se sont améliorées, bon, on n'est pas encore là. On a déployé quelques efforts dans cette direction.
Quand vous parlez d'efforts, vous pensez par exemple à quoi?
Le magistrat, le maire de Minneapolis a avancé certaines propositions relatives à la réformation de la police à Minneapolis. Mmh. Et il y a eu pas mal de gens qui ont contrecarré ces efforts. Et bien entendu, il y a même, dans un certain sens, on a parlé de defunding la police. Mais en tout cas, ça a été mal reçu par plus d'un. Peut-être le thème est trop fort.
Vous voulez dire qu'il y a une certaine opposition à ce mouvement qu'on appelle « Defund the police », autrement dit, diminuer les financements ou les fonds qui sont alloués à la police. Il y a eu beaucoup de résistance.
Voilà. Il faut quand même redistribuer ces fonds pour que, dans certains cas, lorsque des gens ont des problèmes mentaux, des malades, des gens qui font face à ces, qui sont certainement un peu déséquilibrés psychologiquement parlant, au lieu que ce soit les flics, les polices qui arrivent avec leurs pistolets dégainés, il faut peut-être envoyer des gens qui ont des compétences autres que la maîtrise des armes à feu pour pouvoir essayer de trancher le problème. Si la personne a des problèmes psychiques, même avec une armée meurtrière, vous n'allez pas résoudre le problème.
L'activiste Ruben Joanem, joint à Minneapolis.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. C'est aujourd'hui, le 25 mai, la journée de l'Afrique. Que pensez-vous de l'Union africaine? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Est-ce une organisation utile ou inefficace? Et pourquoi?
Venez en discuter en direct ce soir. À votre avis, c'est à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique, en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Edrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.